Bonjour à tous et à tous ceux qui suivent le culte avec nous, qui participent au culte avec nous bientôt. Et merci Seigneur d'être là avec la vie qu'il donne et aussi la joie qui nous permet de nous retrouver ensemble. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont participé à ce culte que nous vivons, puisse être vraiment un temps de ressourcement, de bénédiction et aussi surtout d'adoration à notre Seigneur. J'aimerais, avant de rentrer dans l'exhortation, remercier en tout cas tous ceux qui travaillent à Londres pour que nous puissions avoir la salle de volée, le ménage, l'accueil, les enfants, le la garderie. Vraiment que le Seigneur vous renouvelle aussi la musique et les groupes de louanges. Souvent, on ne dit pas assez, on ne remercie pas assez la musique. Mais le Seigneur ne vous a pas oublié. Le Seigneur vous tient à cœur pour vous rendre de plus en plus apte, joyeux et là pour sa gloire. Merci pour tout cela et j'aimerais qu'on lise la parole et on va finir. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ces moments de louange, d'adoration, oui, que nous avons tous. Puis nous avons pu participer chacun de sa manière, avec sa voix, avec ses mains, avec la force que tu donnes. Merci pour toute l'Église qui participe à une louange et une adoration vers toi, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire et te demander, Seigneur, règne encore dans ton Église. Règne dans nos cœurs et que ton règne puisse toucher chacun de nous. Merci pour tous ceux qui nous visitent pour la première fois ou pour les deuxième fois. Seigneur, merci de ce temps de partage ensemble. Que ton esprit nous parle. J'aimerais, Seigneur, que tu parles à mon cœur. Que tu ouvres mon esprit, mon intelligence, pour que je puisse te comprendre à travers ce message et que je puisse aussi la mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Lisons Marc 12, versets 38 et 41. Marc 12, 38, 41. Je vais lire dans la version 10, second 21. J'avais préparé avec David, mais j'ai vu qu'il y a des mots qui sont un peu très lourds, donc je vais alléger un peu. Il disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui se plaisent à se promener en longue robe et qui aiment les salutations dans la place publique, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas. Qui dévore les maisons des veuves tout en faisant pour l'apparence de longues prières, ceux-ci recevront une sentence plus sévère. Assis en face du trésor, Jésus regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor. De nombreux riches y jetaient beaucoup. Une veuve pauvre vint et y jeta deux pièces, ce qui fait le quart d'un sou. Et en appelant ses disciples, il leur dit, en vérité, je vous dis que cette veuve pauvre a jeté au trésor plus que tous ceux qui ont participé. Car tous y ont jeté de leur superflu, mais celle-ci y a jeté de son dénuement tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. La dernière fois, le dimanche dernier, nous sommes exhortés les uns les autres avec la parole qui nous interpellait que, quel que soit ce qui arrive, oui, le Seigneur nous garde précieusement dans sa main afin que nous soyons sans reproche devant notre Dieu à son avènement au moment que nous allons le rejoindre. Et il y a un mot, une phrase qui m'a beaucoup touché. Le Seigneur permet que nous puissions grandir en sanctification par la paix que le Seigneur permet que nous puissions procurer en église, en communauté, au lieu du travail, que nous soyons des acteurs de paix. Dans un monde bouleversé par la guerre, des tensions, des rivalités, que le Seigneur permette que son église, ses enfants puissent être des moteurs de paix dans ce monde. Ce matin, j'aimerais que nous puissions encore nous exhorter sur la sanctification, les aspects de la sanctification. Sanctifier nos motivations. Le mot motivation, c'est important. Nous allons essayer de voir ici que la motivation des pharisiens, il y a quelque chose. Derrière la motivation des pharisiens, il y a quelque chose. Et derrière la motivation de la veuve, il y a aussi une réalité. Parce que nous sommes en église, nous sommes ses enfants, et nous avons besoin toujours de se poser la question, pourquoi je fais ceci? Je peux me poser la question, pourquoi je viens là ce matin à l'église? Pourquoi je fais ce service à l'église? Pourquoi je prêche? Pourquoi chacun de nous est ici présent dans la communauté? Il y a un chant qui a dit, si je vis, vous avez chanté tout à l'heure, ça m'a beaucoup interpellé par rapport au message. Si nous vivons, c'est pour l'adorer, c'est pour l'honorer. Et donc, cette motivation est saine et purifiée et pure devant le Seigneur. J'aimerais vous raconter une histoire vraie, parce que c'est la réalité, c'est de l'actualité. Vous connaissez Elon Musk, c'est un milliardaire américain. Au début de la guerre de l'Ukraine, la communication au niveau de l'Ukraine était brouillée, l'Internet, tout était touché. Donc, les habitants, les hôpitaux, les pharmacies, tous ceux qui utilisent l'Internet pour travailler, ça risquait des problèmes. Et Elon Musk est venu, il a dit, voilà, je viens, c'est une occasion pour travailler pour la bonne cause. Je vais venir vous rétablir Internet. Je vais envoyer des satellites par mes propres frais. Et je vais vous donner gratuitement de l'Internet parce que je ne peux pas voir supporter que les hôpitaux des personnes meurent parce qu'il n'y a pas d'Internet. Je ne peux pas supporter que cette situation perdure. Et donc, il a installé des satellites et il a commencé à fournir l'Internet. Récemment, il est revenu sur sa décision. Il a dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Parce que je vois qu'il y a des milliards qui sont en train d'aller, de se diriger vers. Il n'a pas dit comme ça, bien sûr. Qui se dirige vers les armements pour l'Ukraine. Et moi, j'enlève mes milliards et pour donner de l'Internet gratuitement. Et il a dit, je vais arrêter. Maintenant, ça serait payant. Tant que vous ne me payez pas, vous n'aurez pas Internet. Et là, en entendant ça, ça m'a posé trois questions. La première question, quelle était sa première motivation? Sa première motivation, je vais être dans l'humanitaire, je vais avoir compassion, je vais aider. La deuxième motivation, pourquoi aujourd'hui, maintenant, il remet en cause sa première motivation? Et la troisième question que je pose, est-ce que souvent les motivations, même cachées, même les plus lointaines, ne vont pas se révéler avec les circonstances et le temps? Et ça, c'est la réalité de la vie. J'aimerais que nous aussi, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau dans l'Église, en service, de temps en temps, on se pose la question, pourquoi? Quelle est ma motivation première quand je viens à l'Église, quand je donne un service ou quand même je fais du bien aux autres? Dans les versets précédents de notre lecture, le scribe s'approche de Jésus pour le questionner. Il semble être animé de meilleurs sentiments que les autres, parce qu'il appelle Jésus déjà maître au verset 32. N'ayant aucunement la pensée de contester, ce scribe veut connaître la parole du Seigneur à l'égard de la prééminence d'un commandement de la loi. Ça fait une grande un contraste avec les pharisiens que nous avons vus tout au long de nos lectures et dans les évangiles à plusieurs reprises, que ces pharisiens s'attachaient qu'aux formes et à ce qui a de l'apparence. Combien le Seigneur a dû être encouragé en voyant ce pharisien venir vers lui d'une manière honnête, sincère, en disant, oui, quel est le premier de tous les commandements, de toute la loi, quel est le plus important? Et il va recevoir son enseignement en disant, Jésus va lui répondre en disant, c'est l'amour. Le second aussi, c'est l'amour. Le premier, c'est l'amour. Le second aussi, c'est l'amour pour Dieu, ainsi l'amour pour nos semblables. Pourtant, Jésus va réaliser que l'enseignement des scribes pouvait être pernicieux. Le Seigneur avertit la foule et souligne l'orgueil et l'hypocrisie qui se cachent derrière les longues prières, l'amour des honneurs et de l'argent. Il dépouille et méprise les faibles, contrairement à l'enseignement de la loi, qu'ils connaissent très bien. Ce langage de Jésus peu habituel dans la bouche de notre Seigneur montre combien l'orgueil religieux est abominable pour notre Dieu. Pour mieux profiter de ce texte, j'aimerais qu'on tire trois éléments d'enseignement qui peut aussi être le moteur de notre motivation, les moteurs. Des éléments qui peuvent être des moteurs pour notre exhortation et même pour notre foi. D'abord, l'amour volontaire. Bon, on peut dire l'amour volontaire. L'amour est toujours volontaire, non? Ce n'est pas le cas. On peut aimer d'une manière sans que ça ne soit volontaire. Il y a l'obéissance volontaire. Nous voyons ici la pauvre veuve d'une manière délibérée, obéit, écoute l'enseignement du Seigneur. Et elle a écouté attentivement la réponse que Jésus a donnée aux scribes en disant aimer son Dieu en premier et aimer son prochain. Voici le commandement le plus grand. Et la veuve va obéir à la lettre. Aimer d'abord Dieu d'une manière volontaire et ensuite une obéissance qui accompagne son amour pour Dieu d'une manière volontaire. Et finalement, nous allons voir le troisième élément qui est la motivation volontaire. Tant qu'on n'a pas une motivation volontaire, tout ce que nous pouvons faire va se révéler infructueux, comme nous voyons l'événement se révéler à ses premiers sentiments, sa première décision. J'avais donné gratuitement, mais maintenant, en voyant tout ce qui est autour, là, il y a beaucoup qui gagnent des milliards. Et moi, mon pauvre type, je suis en train de perdre mes milliards, donc maintenant, je vais récupérer mes milliards. L'amour volontaire, un cœur fermé à l'amour abondant de Dieu, ne peut se remplir d'amour et déborder gratuitement et volontairement sur les autres. Notre cœur a besoin d'un élément essentiel pour notre existence et aussi pour notre foi, un cœur ouvert qui reçoit l'amour de Dieu en abondance et qui peut permettre que les autres puissent être touchés gratuitement par l'amour gratuit que nous avons reçu de notre Seigneur. L'amour volontaire est contrasté ici par l'amour de soi manifesté par les pharisiens que le Seigneur condamne. C'est une force qui. Les pharisiens avaient aussi de l'amour, mais de l'amour pas de Dieu, pas du Seigneur, pas ce que le Seigneur veut, mais ce que ils veulent. C'est pourquoi ils vont se mettre d'abord dans le long pour être visible, même si tu es à 4 km, ah oui, là, c'est un peu. Attention, pour faire le guépard bien salué. Ensuite, des longues prières, allez, ils vont se mettre debout, lever la main vers le ciel, prier, 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 et pour que les gens puissent dire, ah oui, fort. En prière, il peut prier 1 heure sans arrêt. Et ensuite, ils vont au-delà de la prière, de l'apparence. Ils vont même au niveau des vœux, les extorquer, soutirer ce qu'ils ont pour vivre réellement. Oui, le premier de tous les commandements, c'est l'amour, et le second, c'est l'amour. L'amour est la somme de la loi. Il en est la plénitude, comme Romains 13, verset 10 le dit. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'apôtre Jacques aussi nous dit ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même en appelant cette loi. La voie royale, Jacques 2, verset 8, l'amour volontaire. Nous pouvons voir de l'amour sous toutes ses formes. Et souvent, on peut aimer, mais si on interroge réellement les motivations de notre amour, on se retrouve que l'amour n'est pas véritable pour nous. Deuxième élément, l'obéissance volontaire. L'obéissance volontaire est la conséquence de notre amour volontaire. En effet, l'amour sans obéissance est stérile, nous dit Jean. Enfin, n'aimons pas seulement, simplement par la parole, ni de longues paroles, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Et l'amour conduit naturellement à l'obéissance. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais je rejette complètement ce qu'il dit. Je ne peux pas obéir à sa parole. Cela veut dire qu'en réalité, ce n'est pas Dieu que j'aime. C'est moi-même. C'est l'amour personnel parce que ça me conforte dans ma décision de chercher à me plaire. Si j'aime Dieu, cela va me conduire naturellement à m'appliquer, à obéir à ses commandements, à sa parole. C'est une démonstration d'amour, car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardons ses commandements, nous dit 1 Jean 5, verset 3. Garder les commandements sans négliger le premier, sinon notre obéissance même deviendrait légalisme, nous dit Osée aussi. Le légalisme vient du fait qu'on obéit, mais en réalité, dans notre amour, il n'y a pas, dans notre obéissance, il n'y a pas d'amour. Et ce que les pharisiens faisaient, ils obéissaient la loi. Et même, ils ont écrit 600 et quelques lois pour pouvoir permettre qu'ils puissent obéir à la loi. Mais dommage, parce que l'amour n'existait pas dans leur obéissance. Est-ce que nous obéissons parce que nous aimons Dieu? Ou est-ce que parce que nous obéissons parce que j'aimerais qu'on me voie, voilà que je suis un bon chrétien, qui fait les choses en tant que chrétien, qui agit par chrétienté, par souci de garder quelque forme chrétienne, ou j'agis réellement parce que j'aime mon Dieu et je veux voir que le Seigneur est honoré pleinement dans ma vie. Osée nous dit, j'ai aimé la bonté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Osée 6, 6. Oui, Dieu nous dit qu'il a aimé la bonté, c'est-à-dire l'amour, et non les sacrifices. Tout ce que je peux faire sans amour est un sacrifice qui est que Dieu ne prend pas plaisir. Si je fais des choses sans amour, ça veut dire que je me trompe totalement. Dieu veut que j'agisse ou que je décide d'obéir parce que je l'aime et parce que j'aime mes frères et mes sœurs. L'obéissance est une réponse à l'amour abondant du Seigneur manifesté à notre égard et à sa parole. Nous voyons ici que l'amour de la veuve pour Dieu va donner une valeur à son acte d'amour. Imaginez, la veuve, elle n'a personne pour la soutenir dans ces moments difficiles, dans ces moments où elle a besoin réellement d'être supportée, d'être accompagnée. Et elle prend tout ce qu'elle a dans sa main, dans ses valises, le plus précieux, et elle arrive, elle écoute l'enseignement de Jésus, et elle se dit, oui, le Seigneur, je l'aime, mais je sais qu'il s'occupera de moi. Et il met tout ce qu'elle a dans les comptes. Oui, ça peut être illusoire, ça peut être bon, peut-être c'est pas, elle a d'autres choses à la maison, mais c'est la réalité. Souvent, ça peut ne pas être notre argent, mais ça peut être notre temps. Ça peut être aussi la façon dont nous nous consacrons pour le Seigneur. Ça peut être aussi la façon dont nous venons à l'Église. Nous venons à l'Église, ce n'est pas pour dire « je chante mieux que tout le monde, je prie mieux que tout le monde, je lis ma Bible mieux que tout le monde, je prie mieux que tout le monde. » Mais je viens à l'Église simplement parce que je veux rendre gloire au Seigneur qui m'a donné la vie, qui m'a donné le privilège de le servir, de l'honorer à travers ce qu'il me donne. Et cela sanctifie ma motivation. Et c'est ce que nous avons besoin dans tout engagement, même un petit temps. Ce n'est pas toute la journée, 24 heures sur 24 dans la prière qui va compter. Même si je prends une heure dans le temps que Dieu m'a donné, si je lui donne cette une heure avec amour,
avec obéissance, avec consécration, le Seigneur prend cela comme un bouquet de fleurs. C'est ce qui se passe ici sous nos yeux. Jésus arrive et il se met à l'écart dans le temple. Il observe. Et cela m'a interrogé. Le Seigneur nous observe. Il est quelque part là. Et il observe chacun de nous. Et il observe le prédicateur. Il observe celui qui joue à la guitare. Il observe aussi celui qui est derrière, avec les enfants. Il observe celui qui a l'accueil en recevant les gens, en accueillant tout le monde. Et le Seigneur regarde et chacun, les milliardaires viennent et envoyer la valise. Deuxième valise, troisième valise, allez, on donne. Et les gens acclament. Waouh, Seigneur, c'est beau. Il a l'argent, il est fort. Regarde, le monsieur. Et le Seigneur regarde et nous observe attentivement. Et il y a une pauvre dame qui arrive. Peut-être à peine elle peut bien marcher. À peine elle peut ouvrir sa bouche. À peine elle peut parler parce qu'elle est en souffrance et en détresse. Et elle prend avec la main tremblante les deux petites pièces. Elle met dans le fond et on entend le bruit clanclant. C'est pas comme les pièces. Et le Seigneur, qui voit les cœurs, qui voit les pensées, les motivations intérieures, voit que cette dame pauvre, souffrante, a compris le message de l'amour, la loi de l'amour. Aimer Dieu, premièrement, et aimer son prochain. Elle a compris ce que veut dire l'obéissance d'une manière volontaire. Et elle se lève. Et il se lève, le Seigneur se lève et dit, vous voyez cette femme, elle a donné plus que tout le monde. C'est la première fois que je vois le Seigneur juger immédiatement, trancher. Il n'a même pas dit, non, attendez, au ciel, on va voir. Au ciel, vous allez comprendre vos motivations. Non, il s'élève maintenant, immédiatement, et il dit, vous voyez la dame, elle a donné plus que tout le monde. Et les disciples sont à la renverse, en disant, mais Seigneur, mais tu n'as pas entendu le bruit, les deux pièces, des deux sous qui sont tombés. Et mais tu n'as pas vu les mallettes de billets, de pain que les autres ont donné. Est-ce que souvent, on se pose la question, le Seigneur voit notre engagement, il voit notre consécration, il voit pourquoi nous faisons ceci ou cela, pourquoi nous faisons ce choix et pas ce choix. Et souvent, quand je pense à ça, je me ressaisis, je dis, Seigneur, aide-moi à me débarrasser des mauvaises motivations. On en a des mauvaises motivations, même si on est inconscient. Souvent, on peut être inconscient d'une motivation. Et puis, moi, je pose la question, pourquoi j'ai fait des études théologiques? C'est pour qu'on ait la parole pour venir redresser les incohérences des uns des autres. Ou c'est pour aider mon frère, ma soeur, à aller dans la direction du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à nous purifier, à sanctifier nos motivations. L'obéissance est une réponse à l'amour abondant de notre Seigneur, nous dit la parole. L'amour volontaire de la veuve, Jésus a vu, constaté et a apprécié. Est-ce que nous voulons que Jésus apprécie notre engagement, notre service, notre consécration? C'est que la façon dont nous venons à l'église. Si nous avons une vision, On a une belle vision. Je suis content qu'on a l'Église à une belle vision. Ensemble pour aimer et grandir. Ensemble pour aimer, grandir et servir. Une belle vision. Est-ce que nos motivations sont réellement purifiées, sanctifiées pour pouvoir avoir une belle motivation derrière cette vision que nous avons mis à l'avant? Troisième élément, la motivation volontaire. Pourquoi la motivation volontaire? Parce qu'on peut être motivé, mais ce n'est pas volontaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui pousse, qui tire, qui lance des flèches, dit non, mais pourquoi tu ne fais pas ça et tout. On peut être motivé, mais de la bonne manière, c'est d'être motivé volontairement. Je me motive. Et je laisse le Seigneur me motiver pour que j'aie une motivation pure, saine, et que je puisse servir mon Seigneur sans me rendre dans une situation où ma motivation est forcée. La motivation forcée peut devenir où je fais, mais je râle. Ah, bon, comme il a dit s'engager, je vais m'engager. Comme ils m'ont lancé des mails et des mails plusieurs fois. Ah, si tu ne réponds pas ces mails-là, ah non, c'est trop flagrant. On voit que je ne m'intéresse pas du tout. Et donc, je réponds parce que je ne veux pas que les autres voient que je n'ai pas de l'amour pour ce que je fais. La motivation vis-à-vis du Seigneur, une motivation volontaire, c'est Dieu qui crée cette motivation en nous. Il a dit dans sa parole que nous avons étudié mardi passé, que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Si le Seigneur suscite en nous le vouloir et le faire, ça veut dire que notre motivation est saine. Et cette motivation va au-delà des difficultés, va au-delà des personnes, va au-delà des décisions, va au-delà des circonstances. Parce que j'ai une bonne motivation, je vais servir le Seigneur. Même si tous ceux qui sont à côté sont en train, je pense qu'ils sont en train de me se moquer de moi. Je pense qu'ils sont en train peut-être de mettre des bâtons dans les roues. Ah non, je ne vais pas accepter ça. Je me rappelle pourquoi je me suis engagé. C'est pour le Seigneur et non pour les autres. Et ma motivation revient à sa place et je peux réellement continuer. Le Seigneur apprécie ce que l'homme aurait tendance à mépriser. Les deux pièces, souvent, on peut mépriser, mais le Seigneur a apprécié. Souvent, notre engagement, même si c'est un petit verre d'eau à cet enfant, à cet prisonnier, ça peut compter plus qu'un seau d'eau avec une barrique de 10 000 litres d'eau pour quelqu'un. Peut-être qu'il n'en a même pas besoin. Il ne s'arrête pas trop à ce que nous donnons, peut-être pour la collecte. Car il regarde plutôt à ce que nous gardons pour nous. Mais avant tout, il considère ce qui est dans notre cœur. Le Seigneur regarde pas le montant que nous faisons virement pour lui. Moi, j'ai donné 1 000 euros. J'ai donné 2 000, 3 000, j'ai donné 20 000 euros pour l'Église. Et je dois avoir ma place devant. Sinon, désormais, je ferme. Mon compte, je me donne plus de virements parce que voilà, je dois avoir la première place. Le Seigneur peut apprécier celui qui a donné les 100 euros plus que celui qui a donné les 1000 euros. Si nous n'avons pas donné avec un bon cœur. Ce regard du Seigneur se pose aussi sur nous lorsque nous allons dans les lieux de culte où nous rendons un culte, c'est-à-dire pourquoi nous venons à l'église, comme on a posé autant de questions. Venons-nous au culte pour apporter de belles mélodies, des prières éloquentes, ou venons-nous dire à notre Dieu la reconnaissance remplie d'amour dans nos cœurs, de louer pour la multitude de ses bienfaits et par-dessus tout pour le don de son Fils Jésus-Christ. Le samedi 25, nous allons venir louer le Seigneur pour ce qu'il est. Et venons nombreux en Église, on va célébrer le Seigneur, on va l'envoyer, adorer le Seigneur comme il est. Et cela nous fera aussi bien de savoir que notre Dieu mérite toute la louange et toute l'adoration qu'il mérite. Il serait peut-être avec des mots tout simples, mais avec un cœur brûlant d'amour. Peut-être même des mots qu'on ne peut même pas prononcer souvent. On prononce avec beaucoup de difficultés, mais notre cœur brûlant d'amour est suffisant pour rendre honneur et gloire à notre Seigneur. Sur le plan matériel, cette veuve est pour nous un exemple. Nous a-t-il de donner de notre pénurie. On parle de pénurie aujourd'hui. On parle de crise. Et souvent, à cause de cette crise, même dans les églises, j'ai remarqué que les églises sont en train de faire des appels aux dons. Parce que les uns les autres ont fermé le robinet. Ça n'arrive plus dans les églises. Et peut-être les pasteurs vont commencer à faire des jets de force. Et que ça soit aussi dans nos institutions de formation, il y a la crise partout. Mais est-ce que nous allons prendre comme raison pour dire comme c'est la crise, je vais diminuer drastiquement ce que je peux apporter pour la mission du Seigneur à travers l'Église et pour les charges de l'Église. C'est une question et j'aimerais que chacun de nous puisse penser que le Seigneur continuera à bénir, même au temps de la disette, le Seigneur bénira pour que nous puissions bénir, pour que nous puissions apporter quelque chose pour continuer la mission que le Seigneur nous a donnée ensemble. Dans nos pays nantis, nos ressources sont souvent bien au-dessus de la fédérie. Il y a néanmoins des cas de réelles difficultés financières et ceci peut arriver à chacun de nous. Les soucis financiers, les difficultés peuvent arriver à chacun de nous. Allons-nous alors diminuer ce que nous donnons d'habitude pour l'avancement de son royaume parce que nous sommes en temps de crise. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée au Burkina au moment où une ville du Nord a été barricadé, encerclé par les terroristes. Et donc, il n'y a plus de ravitaillement de nourriture. Et tout le monde, personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Donc, finalement, pas de nourriture, pas d'essence, il n'y a rien du tout. Et les femmes, les enfants étaient en train de mourir de faim. Ils sont allés ramasser les feuilles des plantes, n'importe quelle plante devient une nourriture. Il suffit que ça rentre dans le ventre. Et au même moment, il y avait personnes à Ouagadougou, dans la capitale, qui ont des véhicules et qui ont des remorques pour transporter de la nourriture dans la ville qui a été en cette. Et pour ça, ils ont dit non, si vous ne nous payez pas 100 fois le prix normal, on ne va pas vous. Et des enfants, des femmes sont en train de mourir dans cette vie. Et pas question qu'on ne bouge pas. Et souvent, je me suis posé la question, comment l'homme peut être si dur avec son prochain au moment même où la souffrance est en train de l'étendre
au lieu de prêter main forte pour pouvoir ravitailler, même à bas prix, juste des cents, non. Ils ont dit, ils ont fermé le cœur en disant, j'ai besoin aussi de s'occuper de mon commerce, de mes véhicules. Et c'est un exemple, dans les exemples, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est le business, c'est l'argent qui a pris le dessus. Nous sommes dans un monde régi par j'ai quelque chose et je dois maintenir et le faire fructifier. Que le Seigneur nous aide à avoir de cette motivation. Si même on donne peu, qu'on le donne vraiment tout notre cœur, que ce soit notre temps, notre engagement, notre consécration, cherchons à être motivés parce que nous aimons Dieu. Nous voulons voir Dieu honoré dans tout ce que nous faisons pour sa gloire. Prions. Seigneur, souvent mes motivations ne sont pas celles. Je vous avoue pleinement que souvent après les questions, je me dis, est-ce que ma motivation était celle? Oui, Seigneur, je te demande de pardonner de toutes les motivations qui n'ont pas été celles. J'aimerais que aussi mes frères et sœurs qui sont là, qui ont écouté ce message, cette parole dont la veuve est l'exemple type de notre motivation. Seigneur, je te demande de pardonner. Dans ton église, Seigneur, nous n'avons pas eu toujours les motivations saines. Et nous te demandons, Seigneur, de pardonner. Parce que les motivations non sanctifiées sont source toujours de conflits, de difficultés, de disputes. Seigneur, pardonne nos offenses et sanctifie nos motivations. Sanctifie mon engagement pastoral. Sanctifie l'engagement de mes frères et sœurs au sein de l'Église. Parce que nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier, nous voulons sanctifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié par la motivation saine et sainte que nous avons en toi pour toi. Seigneur, fais tomber toute mauvaise motivation en nous. Fais tomber les murs des mots, des fausses motivations, des fausses piétés. Et que notre motivation soit pure. Et que l'honneur qui vient à toi puisse venir à toi. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Seigneur, que nous puissions faire la part des choses et t'honorer pleinement. Bénis toutes les équipes, Seigneur, au sein de l'Église. Les équipes qui aident à ce que l'Église puisse accomplir sa mission. Je te prie, Seigneur, que chaque engagement au sein de cette équipe soit motivé par ton amour, par l'obéissance et par la saine motivation, la sainte motivation. Seigneur, ne permets pas que ce soit une obéissance forcée, une motivation, oui, peut-être bradée parce que je veux paraître. Que ça ne soit pas un amour inféodé. Parce que simplement, j'attends un retour, mais que ta parole soit pleinement retentissante dans mon cœur. Que tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Non pas pour, comme pour les hommes, mais comme pour Dieu. Seigneur, que chacun de nous puisse aujourd'hui que nos engagements puissent refléter notre amour, notre obéissance et notre motivation saine pour toi. Seigneur, bénis ton Église et permets que, Seigneur, ton Église puisse grandir en toi. C'est là que nous allons avoir la paix parce que nos motivations sont saines et se convergent à un seul but, le but de te glorifier, de t'honorer. Et que, Seigneur, des âmes accourent à toi. Et connaissent ton amour, et connaissent ta bonté, ta miséricorde et ta fidélité. Nous prions pour notre monde qui est encerclé, qui est
oui, kidnappé par le gain, le profit, à cause du gain. Oui, beaucoup sont motivés par une mauvaise motivation, même que ce soit beau dans les regards profonds. Il y a une motivation cachée. Seigneur, arrête et permets que la crainte de ton nom puisse retentir dans ce monde. Maîtrise par l'ennemi dans des fausses piétés et des fausses motivations pour ta gloire. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.